attendant pour la dernière session de ce colloque qui sera suivi de la conclusion finale de Mohamed Kimera. Et donc pour cette dernière table ronde, on a un programme très ambitieux concernant la place des humains supérieurs et colombiens dans les instances et les organisations de l'ICERN de France. C'est une table ronde qui va être animée par Madame Fatima Kemilat, qui est doctorante en sciences politiques à l'IEP d'Aix. Voilà. Je vous laisse entre les mains de Fatima.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être restés et d'être toujours là pour cette table ronde qui, je l'espère, sera à la fois animée et, j'espère, à bâton rompu. Alors, j'attends qu'on parle et qu'on entre vraiment en plein dans la question de la place et du rôle des musulmans d'Afrique subsaharienne et des Comores dans les instances représentatives, ou pas d'ailleurs, de l'islam de France. Alors sans plus tarder, commençons par les présentations. Monsieur et professeur Hassani Fassassi, qui est originaire du Bénin et qui est docteur en sciences politiques, en sociologie politique en l'occurrence. Il est le secrétaire général de la FAYACA, c'est la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Donc quand je dirais FAYACA, je me référerais spécifiquement à cette fédération. Il est également membre du CFCM, Conseil français du culte musulman. D'ailleurs, c'est à ce titre que vous êtes intervenu. Dimanche dernier, il y a eu le congrès des musulmans de France qui s'est tenu à l'Institut du Monde Arabe. On reviendra notamment sur les propos que vous y avez tenus qui rentrent en plein dans la thématique de cette table ronde. On a également présent avec nous M. Abdoulaye Ley. Merci beaucoup d'être présent. Vous êtes actuellement président du collectif des Mourides France. Vous êtes chargé de la base des relations extérieures au sein de l'institution. Vous êtes aussi membre du CFCM et vous êtes titulaire d'un diplôme interculturalité, laïcité et sécularité de l'Institut catholique de Paris. Ça fait partie des DU qui ont été lancés à l'initiative du ministère de l'Intérieur et il y en a à peu près, je crois qu'il y en a 22 aujourd'hui en France. Et vous êtes diplômé de ce DU. Nous avons également le cheikh Mohamed Minta, si je ne me trompe pas, qui est juste ici, voilà, diplômé de l'université islamique de Médine, imam à la mosquée de Décines, alors c'est une ville à côté de Lyon. Vous êtes professeur à l'IMED, Institut musulman d'enseignement à distance basé en France. Vous êtes également professeur et fondateur du centre Chatibi à Lyon, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la spiritualité musulmane, dont L'amour de Dieu et son prophète et Tawakkul, et aux éditions Tawhid, qui est une édition donc spécialisée sur les questions liées à l'islam de France. Nous accueillons aussi Abdourahmen Ridouane, alors à ma droite, c'est ça ? Ou à ma gauche, voilà, super. Vous êtes titulaire d'un master en management des organisations sociales depuis 2016 à l'université de Caen. Vous êtes très engagé dans tout ce qui est question associatif musulman, dans tout ce qui est aussi la question syndicale, et défenseur des droits des musulmans en France, avec notamment la question de la représentation. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, il y a une consultation qui a été lancé par l'ancien directeur du CCIF, le Conseil français du culte musulman. Et vous avez participé, pas le Conseil français d'ailleurs, c'est le collectif contre l'islamophobie en France. Et je suis censée être bien placée quand même pour savoir ce que veut dire l'acronyme. Et voilà, donc vous avez fait partie de cette consultation. La réunion qui avait été faite le 30 septembre à Paris suite à ça. Vous êtes aussi le président fondateur de l'association Les Alliés de la Paix, puisque la question du vivre ensemble est une question dans laquelle vous vous engagez beaucoup. Alors Maïmouna Eliane Tior, voilà, qui a la délicate tâche d'être la touche féminine de cette table ronde très masculine. Mais bon, quand on parle d'islam de France, c'est souvent le cas. On est très heureux et heureuses de vous voir aujourd'hui. Elle est titulaire d'une licence en lettres et d'un master en information et communication, et vous êtes spécialisée aussi sur les questions liées au genre à l'égalité, qui font partie de votre spécialité. Elle a réalisé son premier film en 2016 qui porte sur la conciliation des questions liées au travail, à la famille, d'une jeune femme sénégalaise qui essaie de à la fois tenir son foyer, tenir son ménage, tout en travaillant pour faire valoir ses diplômes et son indépendance, ce qui fait quand même partie des questions que l'on peut retrouver d'ailleurs chez les femmes d'origine subsaharienne et comorienne, comme chez les femmes maghrébines, où en général la question de la tradition et de la conciliation avec le mode de vie occidental se pose avec acuité. Voilà, mais vous faites actuellement un master donc à l'université de Lyon aussi sur les questions de genre, ce qui me ravit, je dois dire. Voilà, alors sans plus attendre, puisque cette table ronde, elle porte spécifiquement sur la question de la représentation, sur la place des musulmans d'Afrique subsaharienne et comorienne dans les instances représentatives de l'islam de France, j'aimerais commencer par, à votre avis, quelle est la place qui est donnée aujourd'hui ou qui est faite aux musulmans qui sont originaires de ces zones du monde dans l'islam de France. Alors, l'islam de France, l'islam en France, l'islam dans France, vous faites la contraction que vous voulez, mais comment est-ce que vous la qualifieriez cette place ?
Un peu rudimentaire, je vais dire, parce que déjà que j'ai dit très tôt que je vais étayer mes propos dans le sens genré, pour une expérience personnelle, mais aussi parce que la table est assez masculine pour que la domination se passe. aussi masculine que vieille, je sais pas si vous voulez. Donc pour une expérience personnelle, c'est le fait d'avoir été en France ou à Paris et de n'avoir pas pu accéder à certaines instances dans les mosquées. À Paris, hein, pour moi, mais quand je suis partie à Lyon pour mes études, justement, j'habitais à Villeurbanne, je faisais 15 minutes à pied pour aller à la mosquée, donc j'avais pas le temps de m'appliquer. Mais quand j'ai déménagé dans le 8e, par exemple, où il y avait la grande mosquée, je me réjouissais déjà d'être à côté de la mosquée, de pouvoir prier de temps en temps. Mais l'accès était très difficile, justement, parce qu'il y avait une grand-mère, une mamie, on va dire, qui avait les clés, qui ouvrait quand elle voulait, qui parlait mal aux gens, enfin, pas mal, mais je comprends que c'est une barrière de langue, parce que ça se parlait arabe entre eux et tout, et nous les noirs, elle essayait de parler français, alors que son français n'était pas top, donc du coup, ça semblait un peu violent, même si c'était peut-être pas le cas, pour dire pousser ou non, laisser les mamans devant et tout, et je comprenais pas pourquoi je devais être derrière, ou elle devait me parler mal pour avoir une telle ou telle position dans la mosquée. Donc ça a commencé à me révolter. En plus, j'avais besoin de connaître quelqu'un qui était dans la mosquée, qui donnait des cours ou qui en recevait justement pour connaître les horaires de cours, pour connaître vraiment comment ça marchait dans la mosquée. Ça m'a vraiment désolée de ne pas avoir accès.
Donc là,
à
c'est
ça.
Plus la place des femmes dans les lieux de prière, c'est ça, avant même
lieux de prière et instance justement, okay, parce que instance dans le sens où on ne pouvait pas décider, je ne savais pas qui décide, comment ça se fait, est-ce qu'il y avait une concertation, tout ça, parce que je voulais m'impliquer, mais on m'a fait savoir que vous habitez où déjà? J'habite derrière, je vous l'avais dit que je suis à Lyon depuis un an. Oui, je sais, mais vos parents, ils habitent où? Ah, mes parents, ils habitent en Essonne. Non, je parlais pas de ça. C'était quoi vos origines? Ah, d'accord, non. Il fallait vraiment chercher un critère de légitimité pour voir pourquoi on allait vous donner la clé, par exemple, parce que la mosquée ne s'ouvre pas à Fajr, parce qu'il y a la mère, la maman qui pouvait pas venir à cette heure. Donc j'étais bloquée à le rythme et ça me dérangeait, par exemple, et je voulais avoir un accès sur comment ça se passait, c'est qui décide, c'est qui faisait quoi et quoi. Donc sur cette question d'instance, justement, je voulais m'impliquer, je voulais avoir une place comme tout musulman dans la mosquée, parce que c'est pas une affaire de famille, c'est pas une affaire de caste, de quartier ou de groupe ethnique. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, notamment sur qui décide pour qui.
Alors, très bonne question sur la question de qui décide pour qui. Et en l'occurrence, qui décide pour qui dans les instances... Alors, vous pouvez parler de la question de l'islam de France en général ou plus spécialement des organisations et des instances aujourd'hui comme le CFCM. À vous de voir. Dans l'ordre que vous voulez, d'ailleurs.
Merci. Ben, je commence par le commencement, c'est bien ça.
Allons-y.
L'alphabet. Merci. Je vous sais gré de n'avoir pas fait ma présentation.
Ah bon?
C'est ça. Je suis tellement visible que ça ne demande pas de présentation.
En plus, vous êtes le premier sur la liste. Alors attendez, je la fais tout de suite. Mais à culpa total. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit obtenue à Paris Assas. Puis vous avez également été formé à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, puisque vous êtes un ancien magistrat. Vous avez été plusieurs fois ministre aux commandes dans les années 90 et vous avez été président de l'île autonome de la des Grandes Comores entre 2007 et 2011. Vous êtes également président de la FAYACA, PACA, il me semble. Et du coup, vous avez vos fonctions à Marseille. Voilà, je vous en prie.
Merci beaucoup. C'était pour éviter de me présenter personnellement sur des aspects qui seraient connus de tous. Mais premièrement, je tiens, comme l'a fait tout le monde, à remercier les organisateurs de ce colloque qui s'est révélé un événement majeur, très important, et qui va certainement entraîner d'autres occasions de création d'événements autour de cette thématique ou d'autres qui sont beaucoup plus proches. Deuxièmement, pour plus de loyauté, je précise que la FAYACA a son président, El Hadj Moussa Touré, qui est donc une organisation intercommunautaire de France, qui regroupe effectivement des ressortissants africains comorien et également des ressortissants, est-ce que je pourrais dire le ressortissant entier? Non, ce n'est peut-être pas exactement la terminologie exacte. C'est-à-dire qu'il regroupe effectivement des musulmans qui se revendiquent de l'Afrique subsaharienne, des Comores et des Antilles. L'initiative de la Fayaka a été prise par Elhadj Moussa Touré et ici, dans cette salle, nous avons la présence du professeur Fassassi, qui a né le secte général national. Et pour plus de loyauté, je disais, la Fayaka région PACA a été créée en 2002 et j'en suis le premier président pour un souci purement juridique, puisqu'il fallait qu'une organisation associative puisse entrer en relation avec les communautés, les autorités locales, pour pouvoir bénéficier premièrement de certains services, avoir une salle de prière, deuxièmement, entrer dans l'organisation du culte musulman en France. Voilà les préoccupations. Donc je tenais absolument à donner cette petite précision à l'endroit de mon aîné, professeur Fassassi, qui est le fondateur de l'FAYAKA au niveau national, avec Elhadj Moussa Touré. Ça, c'est la première clarification que j'ai tenu à faire. Deuxièmement, je parlerai effectivement de la présence de la place des Africains subsahariens, des Comoriens, des Antillais, parce qu'on globalise avec les Antillais, mais en général, les Antillais ont très peu de visibilité et de place dans la sphère confessionnelle. Et quand je parlerai de la place de toutes ces communautés dans les organisations de l'islam en France, j'aurai à poser certaines questions. Parce qu'il y a déjà les organisations qui ont été initiées par les communautés musulmanes elles-mêmes, sans avoir besoin d'avoir de référent du pouvoir public. C'est ce qui s'est fait, dès le départ, dès qu'il y a eu effectivement en France des musulmans de tout horizon quelconque. On a essayé de se retrouver dans des structures associatives pour pouvoir pratiquer le culte ensemble, exprimer les spécificités effectivement de chaque communauté dans le cadre de l'islam en France. Mais il est arrivé à un moment où les pouvoirs publics se sont intéressés de plus près à l'organisation de l'islam. Je pense que c'est ce qui est arrivé à partir des décisions de monsieur en 2002 du président Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, qui a donc enclenché cette démarche de création du CFCM, du Conseil français du culte musulman. D'ailleurs, j'ai fait quelques échanges tout à l'heure avec le professeur Fassassi, qui m'a rappelé que ce concept, il en a été à l'origine. Il a travaillé sur le concept de la création d'un conseil national du culte musulman, qui devait d'ailleurs s'élever encore à un niveau européen de l'organisation du culte musulman, puis encore à un niveau même international. Et au niveau national, ce concept a été repris par les autorités, le pouvoir public, du temps où Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et la préoccupation, à mon avis, c'était de bien cadrer l'islam, de bien le maîtriser, le couper, pour ainsi dire, des influences géographiques externes, et de également de lui donner une image qui ressemblerait au paysage culturel et culturel français, c'est-à-dire un islam qui serait conforme au dispositif laïque, un islam qui se pratiquerait, qui s'exprimerait sans heurter de front, effectivement, le tissu culturel, le tissu social français. J'ai l'impression que c'était ça, la préoccupation. Et c'est pour cela qu'on parle d'un islam de France, plutôt que d'un islam en France. Parce que si c'était un islam en France, ça veut dire que ça pouvait être la production, ça pouvait être la contribution de tous les musulmans du monde qui viendraient ici, pratiqueraient un islam selon leur point de vue, sans que cela puisse être un islam qui soit en conforme avec les préoccupations sociales et culturelles de France. Donc parler d'un islam de France, effectivement, c'est arriver à dégager une certaine identité culturelle, qui se conformerait effectivement aux préoccupations des pouvoirs publics, se conformerait effectivement à une certaine harmonie sociale globale. Et dans ce cadre, c'est là où nous nous posons une question, nous, membres de la communauté subsaharienne, les Africains, les Comoriens et autres communautés, sur notre participation. Le problème s'est posé tout de suite, parce que quand il a fallu mettre en place le Conseil français du culte musulman, il a fallu dégager des critères d'identification. C'est le critère qui a été dégagé tout de suite de représentativité, c'est l'espace des lieux de culte. Il se trouve qu'effectivement, la communauté africaine et comorienne, c'est une communauté qui se préoccupait davantage de pratiquer son culte de manière intérieure, de pratiquer son culte dans des espaces qui sont des espaces réduits, qui n'avaient aucune prétention, cela a été dit tout à l'heure, Mathé, qui n'avaient aucune prétention d'hégémonie, ni prétention de prévalence. C'était ça le problème. Donc, quand il a fallu prendre comme critère de représentativité l'espace des lieux de culte, du coup, la communauté africaine et comorienne s'est trouvée plus ou moins exclue. Je rends un vraiment hommage à mon aîné, le professeur Fassassi, qui est ici, et Alhaj Moussa Touré, qui ont réussi, de par leur relation avec les pouvoirs publics, à obtenir quand même une certaine cooptation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, une certaine cooptation des représentants de la communauté africaine et comorienne au sein du FCM. Autrement dit, on ne sait pas du tout dans ces instances. Et d'ailleurs, nos co-religionnaires avaient œuvré quelque part un petit peu pour que cette représentativité qui pourrait s'obtenir s'il fallait tenir compte des communautés pouvait être rétablie de manière égale à ce que cette représentativité ne joue pas réellement. Je suis désolé de le signaler, mais c'est ce qui s'est passé. Et du coup, pour revenir au cas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alors en fait, on va revenir sur la question locale un tout petit peu plus tard. Je voulais vraiment revenir sur les débuts avec notamment la question du CFCM. C'est pour ça que ce n'était pas nécessairement dans l'ordre que j'ai posé la question.
D'accord.
Je vous redonne la parole.
Dans ce cas-là, je pourrais peut-être m'arrêter.
Et après, je vous redonne la parole.
Soit relancé.
Exactement.
Mais dans
sur la question
même si je devais m'arrêter ici, je serais de manière très honoré, relayé par
exactement. Et justement, dans cette perspective, alors merci beaucoup d'avoir remis dans le cadre la façon dont le CFCM a émergé et dont vous avez été un acteur éminent. Et ensuite, je donnerai la parole aux autres intervenants, bien entendu. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que cette fédération, la FAIAK, elle a été produite aussi en vue d'améliorer la représentation des musulmans subsahariens et comoriens? Et est-ce que c'est du coup quelque chose qui répondait à une demande des autorités publiques en 2002 et 2003 d'avoir des interlocuteurs de l'islam africain en France?
Oui. Et ce que je viens d'entendre, nous avons une chance d'avoir dans cette salle le disque dur, le témoin oculaire de tout ce qui s'est passé, c'est notre Bernard Godard. Il a assisté à tout. Le mot CFCM s'est sorti de ma tête. C'était en 2001. Et avant ce jour-là, on avait ce qu'on appelle la Comor, c'est-à-dire la commission d'organisation qui faisait les istishara au ministère de l'Intérieur. Il y avait un problème qui opposait ce qui va devenir les trois grandes fédérations, l'OIF, la Grande Mosquée de Paris et le FNMF. L'OIF a gelé sa participation pendant 10 mois. Donc le CFC, le Stichara, était presque bloqué. Il a fallu que Cheikh Moussa Touré et moi-même, nous prenions notre bâton de pèlerin pour aller supplier les uns et les autres pour les ramener à la table des négociations. Et lorsque j'ai proposé l'appellation CFCM, c'était tout un projet, tout un programme que j'ai détaillé. J'ai donné la copie au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ça a été accepté? J'ai donné l'exemple de 1964 lorsque nos aînés en Afrique, Senghor, Houphouët Boigny, Amani Diori et Bourguiba, les quatre, avaient proposé à Pompidou la francophonie pour faire un pendant avec Commonwealth des Britanniques. À l'époque, on se moquait d'eux. C'est quoi? Vous voulez être plus royaliste que le roi? Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est la francophonie, l'importance de la francophonie pour la France. Je me calquais sur cet instinct. Je disais, le Conseil français du culte musulman, il y avait un débat féroce en 2000 en Allemagne. Ce débat, c'est entre les Européens qui travaillent en Allemagne. Quel que soit votre travail, quelle que soit votre religion, vous payez pour l'Église. Et je me suis dit, quand on va se retrouver à Bruxelles, pour qu'on puisse reconnaître chaque délégation, on va dire Conseil italien de culte musulman, Conseil britannique, Conseil suédoise, Conseil hollandais, ainsi de suite. Et on a proposé Conseil européen de culte musulman. Mais le plus important que je tiens à vous signaler, on a proposé le Conseil mondial de culte musulman avec une empreinte africaine. On a même désigné le secrétaire général de cette institution. Et Cheikh Moussa Touré Lafayaka a payé son déplacement. Il est venu de Dakar à Paris. Il a rencontré Delil Boubacar. Il y avait Bernard Godard et Sevestre. On l'a amené chez Delil Boubacar à la Grande Mosquée de Paris. Il s'appelle Mustapha Cissé. C'était l'ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite. Pour couper court, ça a foiré. Parce que les grandes fédérations n'en voulaient pas.
Les grandes fédérations africaines.
Les grandes fédérations, l'OIF, la Grande Mosquée de Paris, FNMF. Mais le pire de tout, c'est pourquoi il ne faut pas... Ce que j'ai entendu tout à l'heure, je vous en prie, je vais vous donner la clé. Le pire de tout, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. La visibilité de la Fayaka ou des Africains dans cette instance, ce n'est pas dû du tout à l'histoire de vous priez pas, pas du tout. C'est moi qui ai présidé la séance en présence de Bernard Godard avec Alain Billon. La séance qui a validé ce que vous appelez aujourd'hui mètre carré. Ce n'était pas ça, ça a été dévoyé. C'est lorsque tout était bloqué, personne ne bougeait. Et nous, la Fayaka a fait preuve d'abnégation. Lorsqu'on négociait, on était sur le même pied d'égalité. Chaque fédération avait les mêmes voix. Il n'y avait pas de mètre carré, il n'y avait pas de grande fédération. On était simplement pour débloquer. Nous, on a fait la proposition, on a dit d'accord, avec la pondération. C'était la Grande Mosquée de Paris. Vous savez ce qui s'est passé? Le jour où on a voté ce qui va devenir mètre carré, l'OIF, ce n'était pas une mosquée, c'était le siège. Ils l'ont transformé tout de suite en mosquée pour avoir des délégations, y compris les parkings. Et tout de suite, ces fédérations se sont dédoublées. Ils ont envoyé trois personnes. Toi, va acheter tel entrepôt. Toi, va acheter tel entrepôt. Ils ont acheté des entrepôts, des parkings un peu partout en France pour avoir des délégués. C'est ça, ils ont dévoyé. ce que nous on a voté, la pondération, c'était à la Grande Mosquée de Paris, c'était les mosquées cathédrales, la mosquée de, d'Evry, les mosquées qui existaient. On allait développer. Donc avec cette, ce dévoiement, ils ont eu ce que vous appelez les délégués que vous avez aujourd'hui. Évidemment, la FERACA n'a pas pu le faire, on ne voulait pas le faire. Mais vous faisiez allusion à ce que j'ai dit avant-hier devant le ministre, enfin, à l'Institut du monde arabe. Ça tombe bien. Ce que je viens d'entendre ce matin me conforte dedans. C'est quoi? Les jeunes qui parlaient du racisme que, dont vous serez victime tout de suite, je vous en prie, ne passez pas à la violence, à l'acte, pas de violence. Mais vous avez une chance. Nous sommes dans un état de droit. Moi, j'ai fait mettre en garde à vue le vice-président du CFCM, un avocat, qui m'a insulté en pleine réunion du CFCM, sale race. Vice-président du CFCM, représentant de la Grande Mosquée de Paris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti de là, on était juste en face de l'Élysée, on faisait la réunion. J'ai porté plainte, le lendemain à 6 heures, ils sont allés le chercher chez lui, l'ont mis en garde à vue, menotté. Il a fallu que la Grande Mosquée de Paris me donne sa voiture pour le libérer. Donc ceci, ce que je suis en train de vous dire, c'est tolérance zéro. Parce que ces gens-là, ceux qui vous traitent là, ne sont pas musulmans. Ne confondez pas l'islam avec ces anti-musulmans. L'islam ne tolère pas ça. Vous êtes dans un état de droit. Vous portez plainte, quelle que soit la personne. Deuxième point qui m'a un peu... Enfin, je le dis pour éviter ce qu'on appelle la fitna. L'islam est beaucoup plus absorbant. L'islam a vu pire que ça. Donc, surtout, nous voyons ça tous les jours. J'ai envoyé l'œil à Saint-Denis pour former une direction. Moi, je n'étais pas là. Le recteur de la mosquée de l'île Saint-Denis, Abdelaziz Niyabali, que tout le monde connaît, un cher. Ils ont voulu former un bureau. C'est moi-même qui avait délégué l'UMP, l'UM 93. Avec l'EI, ils sont allés.
Alors, vous pouvez expliquer ce que c'est que l'UM 93?
C'est l'Union des musulmans de 93. Ils ont formé le bureau. Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, il y a un problème. J'ai dit, quel problème? L'œil était au bord des crises. J'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit textuellement, on vient de former le bureau. Il y a Hassan Farsadou qui a dit, jamais un noir sera mon président. Textuellement, en parlant de Abdelaziz Niyabali. Bon, ceci pour vous dire, je vous en prie, vous les jeunes, je l'ai dit aussi au ministère, l'islam a vu pire. Mais c'est vous les musulmans. Et j'ai beaucoup d'arabes maghrébins qui les condamnent. Et si vous allez sur Facebook, moi je suis qualifié d'arabophile. Les Africains m'attaquent. Dis-toi, tout ce que tu fais, tu protèges les arabes, tu ne veux pas qu'on parle de la traite négrière des arabes. C'est ce qu'on dit. Parce que je dis non, il ne faut pas confondre. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la loi Taubira. La loi Taubira, c'est le 17 avril 1998. Elle était dans la salle comme tout le monde. Moi, j'étais à la mairie du 20e arrondissement avec Michel Charza, le sénateur maire, et la ministre Georges-Paul Langevin. On était tous les trois à la tribune. Je parlais de la traite négrière. Christiane Taubira était dans la salle. Georges-Paul Langevin me disait que la traite négrière n'est pas un crime contre l'humanité. Et le maire Charza, pareil. C'est à la fin de mon intervention. Toute la salle s'est levée. La salle qui prenait 700 personnes, c'était le triple. Tous s'étaient levés, ce qu'on appelle standing ovation. Ils sont venus me voir. Et Christiane Taubira, elle est venue me voir, me dit, tout ce que vous venez de dire là, vous avez des preuves? Les gens lui ont dit d'acheter mon livre. 2 semaines après, elle me téléphone. elle s'est mise à la disposition de notre association. Donc, ceci pour vous dire, on a une chance inouïe de vivre en France. De tous les pays qui ont fait la traite négrière, l'esclavage, la France est la seule à être digne pour regarder son passé droit dans les yeux. Elle a reconnu la traite négrière comme crime contre l'humanité.
On viendra peut-être dessus, désolé, mais en fait...
Attendez, je vais m'arrêter sur ce point.
10 minutes par intervenant, et ensuite on va entendre votre collègue, s'il vous plaît.
Ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, Mayotte, lorsqu'on était là-bas en 2004, ils étaient presque à feu et à sang. Pourquoi Hadj Moussa Touré nous a envoyé là-bas? Parce qu'ils ne voulaient pas accepter le statut personnel. Il y avait presque une insurrection. Nous, on est resté avec Boana. Une semaine, je faisais toutes les radios, les télés, les radios, les jeunes, ils venaient chez nous, on les a calmés. Et maintenant, Dieu merci, c'est passé. On reviendra là-dessus.
Merci. Alors du coup, j'aimerais vous entendre aussi, Abdoulaye, sur la question, toujours le lien avec la question du CFCM. Monsieur Hassani Fassassi revenait sur le racisme intérieur qui pouvait, des Arabes qui font partie des instances musulmanes de France, qui pourraient en partie expliquer la position marginale de l'islam africain dans ces instances. Est-ce que vous partagez le diagnostic ou est-ce qu'il y aurait d'autres causes, selon vous, qui peut expliquer cette minorisation comme ça de l'islam africain?
Merci pour les organisateurs et merci aussi pour les participants. Et je salue chaleureusement quelques figures emblématiques de l'islam de France qui ont beaucoup aidé les musulmans dans leur démarche, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Hassani, l'éminent professeur Bernard Godard, et le chef actuel du bureau du pôle islamique au bureau des cultes, et c'est l'allié là-bas au fond. Et je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur l'historique de l'islam noir ou bien l'islam d'Africain d'origine subsaharienne en France et leur implantation dans ces pays. Et comme vous le savez, la première association africaine composée en majorité par des musulmans d'origine subsaharienne était une association d'étudiantes. Puis, il y a l'arrivée, malheureusement, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait des tirailleurs sénégalais. Et après la guerre, nombreux sont parmi eux qui sont démobilisés et rentrés, mais d'autres qui restaient, qui devenaient des dockers et des ouvriers travail manuel en Marseille ou à Le Havre ou à Bordeaux dans les ports français. Et après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire le pays. Et il y a une deuxième vague d'arrivée des immigrés soassi, comme on dit, ou bien des immigrés invités pour participer à la reconstruction du pays. Ces immigrés travaillèrent jusqu'à les années 70 et travaillaient et restaient dans le foyer ou entre les quatre murs de leur demeure, et si l'occasion se présente, ils retournaient au pays pour voir leur famille. Mais à partir des années 70, il y a une politique menée par le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing sous l'égide de son ministère de l'Intérieur, Pasqua, qui entamait la politique de regroupement familial avec l'arrivée des femmes et la naissance des enfants et qu'on appelle la deuxième génération, qui sont de droit de nationalité française par le droit du sol. Donc cette deuxième arrivée a implanté, à mon avis, d'une façon irréversible, l'islam en France. Et avant la création de la FAYACA et du CFCM, notre communauté avait des associations. Associations village, souvent régionales, ethniques ou nationales. Notamment des ressortissants de la vallée du fleuve au Sénégal, sénégalais, maliens et mauritaniens. Nous vivons entre nous, dans nos associations, en organisant des cérémonies telles que nous les organisons chez nous, de baptême, de mariage, des cérémonies religieuses, comme nous le fêtons chez nous. Mais en réalité, nos associations n'avaient pas enraciné comme aujourd'hui sur le sol français. Mais après la création de la FAYACA et du Conseil français des cultes musulmans, dont mes deux collègues ont revisité l'historique, nous commençons à vraiment participer à la vie quotidienne de nos ressortissants et les membres de nos associations. Mais comme vous le savez, notre communauté est composée par de différentes nationalités, comme vous l'avez dit. Et même dans un pays, il y a différentes communautés d'ordre ethnique, d'ordre confrérique ou d'ordre culturel. Mais malgré ces difficultés internes, la FAYACA a quand même réussi à intégrer l'ensemble des associations islamiques, je dirais même au-delà des associations islamiques, l'immense majorité de nos ressortissants vivant en France, qui est estimé, d'après les statistiques officielles, en 62 à 25 000.
25 000
membres aujourd'hui.
D'accord.
Et nous les estimons à 750 à 800 000. Donc, se multiplier à presque 27 ou 28%. Et malgré ces différences d'ordre ethnique, religieuse et culturelle, nous avons réussi quand même à mettre sur pied la FAYACA, qui est implantée presque dans l'ensemble du territoire France métropolitain. Parce que nous avons de Daïre, un mot arabe qui signifie cercle ou association, pratiquement dans toutes les grandes villes, je dirais même dans les villages français. Donc la FAYACA s'implante d'une façon vraiment significative sur l'ensemble du pays. Mais malheureusement, et avec le système de mètres carrés, et nous sommes marginalisés parce que nous ne détenons que 4 mosquées, dont l'une a été démolie par la mairie de Paris, il faut le dire, qui nous a promis sa reconstruction, avec qui nous avons négocié et avec qui nous avons mis sur la table 270 000 euros qui représentent 70% du prix de vente.
10%
du prix de vente. Et nous engageons.
C'est rue Polonceau,
c'est ouais, rue Polonceau. Et nous engageons à solder le reliquat le sourd de la signature, mais curieusement, pour des raisons que nous ignorons, ce procès a été abandonné par la mairie de Paris.
Donc, nos difficultés... Et la mosquée est revenue à qui, du coup?
La mosquée s'est démolie. Maintenant, c'est un espace escouaté par les riverains qui font des sardins de familiales ou bien des trains de ping-pong, des choses comme ça. Mais en tout cas, le train est toujours vert. Il n'y a rien. Donc, nos difficultés sont vraiment énormes. Et malheureusement, nous avons des partenaires, c'est-à-dire les grandes fédérations, les grandes mosquées qui composent le Conseil français des cultes musulmans, derrière cette grande fédération ou grande mosquée, il y a un État ou une puissance financière étrangère qui le soutient. Nul ne peut ignorer que ce sont les consulats qui gouvernent le CFCM. Mais derrière la FAECA, il n'y a aucun État. Aucun État africain ne nous soutient, ni arabo-islamique.
Il y a des liens, il y a toujours des liens. Il peut y avoir des liens avec le Sénégal, il peut y avoir des liens avec
le Mali. Oui, il y a des liens que nous maintenons nous-mêmes. Nous l'avons maintenu parce que nous ne voulons pas couper le cordon ambulical qui nous soit lié avec nos pays d'origine. Mais de retour, nous, il n'y a rien, absolument rien.
Vous parlez de la question du financement?
Question de financement?
Oui, est-ce que c'est ça qui dit qu'il n'y a pas de lien?
Oui, oui, ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'État. Ce sont nos propres moyens parce que nous les Mourides, membres de la FAECA, nous cotisons annuellement, modestement peut-être, l'ensemble des Mourides du monde entier, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Afrique du Sud, un peu partout, au Brésil, en Argentine, chaque Mouride cotise. Et ces caisses sont serrées par Touba, le calife général. Si un Mouride, un groupe de Mourides a un projet illicite, est soumis au calife, le projet sera étudié à la lettre, et s'il est élu, le calife finance. Mais il le finance avec l'argent des Mourides. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a aucun État derrière nous. D'accord. Et l'argent que Touba nous donne, ça nous revient parce que nous sommes des talibés et nous cotisons.
Alors on va revenir sur, après, bon, sur la question des femmes consulaires.
Ouais, pour ce qui concerne.
On va essayer de répartir un peu la parole. Je reviens vers vous juste après. Justement sur la question des confréries et de l'impact des confréries dans la question de l'organisation de l'islam de France. Mais j'aimerais aussi entendre du coup les participants de la table ronde de ce côté-là, aussi sur la question de l'implication locale, la question de la représentation des musulmans d'Afrique saoudienne et comorienne, elle s'est posée avec d'autant plus d'acuité qu'il y a eu les instances de dialogue avec les musulmans. Il y a eu ensuite les assises territoriales cette année qui ont été organisées par le président de la République et par son ministre de l'Intérieur. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu participer à ces instances territoriales qui visent justement à recueillir la parole d'acteurs de terrain, et comment vous, dans vos villes respectives, à Lyon ou en Normandie, bien vous parlez avec les interlocuteurs avec l'État et entre vous de la question de l'islam.
Je laisse la parole à mon aîné.
Je vous en prie.
Tout d'abord, je tiens, comme tous ceux qui sont passés avant moi, ils l'ont fait, à remercier les organisateurs de ces colloques et que je trouve vraiment très instructif, très important. Il faut que vraiment que ça continue. Et ensuite, ce que moi j'aimerais souligner, pour ce qui est la représentativité des musulmans, notamment de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, des Comores, ce que moi j'ai pu constater, c'est vrai, dans les régions, d'une manière générale, des musulmans qui sont reconnus par leurs compétences, par leur présence sur le terrain, quand il y a quelque chose qui s'organise, ils sont invités. Ils sont invités, ils sont sollicités. C'est vrai, moi, personnellement, j'ai fait partie du conseil d'administration des CRCM au niveau de la région Rhône-Alpes. Mm-hmm. Bon, mais c'est vrai, personnellement, moi, la politique, la représentativité, ce n'est pas quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'en ai fait partie dans la mesure où je me suis dit, si je peux apporter quelque chose, j'apporterai ma pierre à l'édifice, mais sinon, ce n'est pas quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Donc, c'est vrai, moi, je gère une mosquée à Lyon qui a aussi une influence importante par nos activités, aussi par la reconnaissance qu'on a sur le terrain. Donc, je suis très souvent invité dans les différentes instances, que ce soit au niveau culturel ou bien que ce soit au niveau organisationnel. Donc, c'est vrai, les concertations qui se sont faites dernièrement, j'ai été invité chaque fois à cela. Mais, comme mes aînés, ils ont dit, notamment au sein des CFCM, étant donné la règle qui a été définie, qui est de déléguer par rapport au mètre carré de lieu qui est géré par les associations, c'est vrai, les Africains, nous gérons rarement des mosquées. Donc, il y a très peu de mosquées qui sont gérées par des Africains. Donc, qui a fait que, donc, au moment de vote, au moment des élections, il y avait peu de représentants d'Afrique subsaharienne ou bien des Africains comoriens. Mais, pour eux, est-ce que c'est par racisme ou autre? En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas le dire. Parce que moi, je n'ai pas subi, je n'ai pas vécu ça nulle part. Donc, c'est vrai. Peut-être le fait de, par ma position, qui a fait que je ne vois pas ce genre de choses, mais c'est vrai. Est-ce que dans la tête des gens, ça existe? Oui, ça existe. Parce que, mais moi, je considère très souvent, de la part des gens qui ont très peu de connaissances, qui sont peu cultivés. Moi, j'ai rarement vu des gens qui sont cultivés, qui ont un certain niveau, qui, quand même, qui ont cette attitude de racisme vis-à-vis des Africains subsahariens ou des Comoriens. En tout cas, je n'ai pas été témoin de ce genre de choses. C'est tout ce que je peux dire.
Merci.
Merci. Je ne dérogerai pas la règle, puis je me fais vraiment un plaisir de réitérer ces remerciements là à l'ensemble du comité d'organisation de ce colloque, qui moi, sur le plan personnel, me ravit énormément, et de pouvoir m'associer à ces débats et à sa réflexion. Je ne souhaite qu'une seule chose, comme beaucoup d'autres l'ont dit dans nos différents échanges, que voilà, ce que vous avez initié ici puisse vraiment inspirer d'autres dans d'autres villes à venir. Pour ce qui concerne la question sur laquelle vous nous interpellez, moi, de mon point de vue, à titre d'expérience personnelle, oui, c'est cette représentation, en fait, cette présence des musulmans d'origine subsaharienne dans le cadre de la représentation de l'organisation de l'islam en France est une réalité, même si tout ce qui a été dit depuis hier et aujourd'hui vient atténuer un peu cette représentation. Mais il y a une vraie réalité, il y a des acteurs issus de la communauté musulmane de la communauté musulmane subsaharienne et comorienne qui participent vraiment à la réflexion et à l'organisation de l'islam en France. Maintenant, pour pouvoir aborder cette question dans toute sa dimension, moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de revenir un peu aux causes. Qu'est-ce qui explique cette faible absence, même si, pour ma part, je dis qu'il y a bien une présence, mais qu'est-ce qui justifie cette faible absence? Qu'est-ce qui justifie cette invisibilisation dont beaucoup ont parlé hier et aujourd'hui? Je pense qu'il y a des causes à la fois endogènes et exogènes. Quand j'entends mes aînés tout à l'heure rappeler à juste titre le parcours de la création de la FAYACA, je me dis, voilà, ça va les surprendre certainement, mais voilà une forme de discrimination interne. Parce que la FAYACA est censée représenter la Fédération française des associations islamiques des Comores et des Antilles. J'ai dû oublier l'Afrique quelque part. Mais voilà, c'est une instance qui est censée représenter tous les Africains, réunir tous les musulmans d'origine subsaharienne dans le cadre de certaines consultations dans cette fédération pour pouvoir peser de tout son poids au sein des instances de représentation de l'islam de France. Moi, j'ai été président de l'association de ma communauté, je suis d'origine nigérienne, je réside à Bordeaux, j'ai dirigé notre association, qui était l'association des Nigériens de Bordeaux, qui était à la base formée, je pense que c'est d'ailleurs toujours le cas, d'étudiants et de familles nigériennes installées à Bordeaux, mais on n'a jamais entendu parler de la FAYACA. Et je peux vous assurer que, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Niger, on est à 98% musulmans. Voilà, on n'a jamais été sollicité par un courrier, ni moi, ni les présidents précédents. Donc, quand on commence à essayer d'expliquer par le processus de la discrimination qui est une réalité, l'absence des responsables issus de la communauté musulmane subsaharienne, il faut commencer par balayer devant sa propre porte. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème de représentation en interne. Il y a des vrais problèmes au niveau interne, entre Africains même, plusieurs communications, plusieurs échanges l'ont mis en évidence. Donc on a ce premier défi à relever au niveau interne, dans la première strate, c'est-à-dire entre Africains eux-mêmes. Donc en plus, quand j'entends mes frères comoriens, pour lesquels j'ai un profond respect, dire avec toute la réalité de la situation, leur perception de la relation avec les Africains, ça en dit non. C'est une réalité, effectivement. En plus, quand on est dans une démarche scientifique, il faut véritablement aller jusqu'au bout des processus dans l'analyse. Voilà, donc on a ce problème-là en interne au niveau des Africains eux-mêmes. Voilà,
et on a. En fait, vous pensez que certaines nationalités ont été privéligées plus que d'autres dans la FENACA?
Pour moi, c'est une évidence.
D'accord. Et en l'occurrence, vous pensez à quelle nationalité?
Non, ça n'a pas d'importance à la limite, quelle que soit la nationalité qui. Non, mais sincèrement.
Non, mais si, c'est important, il faut le dire.
Pardon, je n'ai pas entendu.
Sénégal et Mali.
Pour ne pas les dire. Voilà. mais à la limite, que ce soit le Niger, je ne serais pas pour autant satisfait. Voilà, ce serait pareil aussi. Voilà, donc déjà, à ce premier niveau de représentation, entre nous, il y a déjà des problèmes de fond et de forme. Et en plus, quand on élargit un peu plus l'analyse au niveau de la communauté musulmane, effectivement, il y a des problèmes de cadrage, de paramétrage, je ne sais pas comment appelons-le comme on veut, entre nous et nos co-religionnaires d'origine maghrébine. Voilà. Et après, il y a le deuxième niveau, la partie exogène, qui est le rôle de notre État, l'État français, dans sa gestion de la composante musulmane et de sa représentation. Donc on a un double défi à relever, véritablement. Et donc on s'essaye depuis toutes ces années à essayer de mettre en place des structures qui puissent être représentatives de cette demande et de ce droit, parce qu'avant d'être une demande, c'est déjà un droit légitime, hein, que la laïcité de la République reconnaît à tous ses citoyens, le fait de pouvoir accéder, exercer en toute liberté son culte. Voilà, ce droit-là, il est paralysé par ce double défi. Défi au niveau interne, défi au niveau externe. Donc, en ce qui me concerne, dans le cadre de l'association que je dirige à Bordeaux, le Rassemblement des musulmans de Pessac, la mosquée de Pessac, on a saisi au vol, parce que pour nous, ça a été la première fois, en tout cas, moi, à titre d'expérience personnelle. Et pourtant, je suis engagé, je l'ai rappelé hier dans un témoignage, je suis engagé depuis 24 ans dans le fait associatif musulman, pour dire ça simplement. Voilà. Et c'est la première fois, pendant toutes ces 24 années d'expérience, que une organisation, une instance, sollicite directement les différentes associations musulmanes, les différents, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, hein, pour demander aux associations de se saisir de la réflexion sur la représentation des musulmans, sur leurs besoins, sur leur forme de représentation et sur le projet qu'ils aimeraient porter collectivement ensemble. Vous y faisiez allusion tout à l'heure dans votre question, bien sûr, je pense à la plateforme proposée par Marwan Mohamed et toute l'équipe qui est autour de lui. Et donc, au niveau de la mosquée de Pessac, nous, on a accueilli ça avec vraiment une joie immense et une grande surprise, parce que, comme je vous dis, c'est une première. Et on a organisé, au mois de juin, on a organisé à la mosquée de Pessac la consultation des musulmans au niveau local. Donc,
Quoi est-ce que cette consultation, pour vous, elle est différente que les consultations qui ont été lancées par le ministère de l'Intérieur, type instance de dialogue ou assistée?
Oui, la différence vient du fait qu'elle émane des musulmans eux-mêmes.
D'accord, donc vous êtes en demande d'une consultation qui viendrait de la base?
Bien sûr, mais de toute façon, ce problème, je pense, on peut le tourner dans tous les sens. On n'y arrivera pas tant qu'on ne fera pas confiance à l'intelligence des musulmans eux-mêmes. Vraiment, on n'y arrivera pas. Et en plus, c'est un paradoxe complètement insupportable, parce qu'on est dans une société régie par un État laïque qui est censé, au regard de la loi et de sa définition, ne pas s'ingérer dans le fonctionnement du culte n'est pas s'ingérer dans l'organisation du culte. Et on se trouve, quand je dis « on », je parle de la communauté musulmane, on se trouve, gouvernement après gouvernement, majorité après majorité, on se trouve là ballotté de projets de réforme de l'islam à projet de réforme de l'islam, piloté, non pas que l'État n'a pas légitimité à s'intéresser à la question religieuse et surtout à l'organisation de l'islam de France, mais piloté à distance, en tout cas nous les acteurs, moi je parle à mon nom personnel, de mon expérience, nous les acteurs, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire que voilà, notre État laïque qui est censé être là juste pour garantir le jeu entre nous et puis préserver la sécurité de l'espace public et nous permettre, avec cette protection, de pouvoir exercer librement notre religion, et voilà cet État qui nous prend en otage, qui prend en otage notre organisation, malgré toute la bonne intention que je peux lui prêter, mais je trouve que cette démarche, et l'histoire le prouve, hein, l'État a essayé depuis le Corif de Jorce, en 90, si j'ai bonne mémoire, jusqu'au CFCM, le dernier avatar des expériences, l'histoire le montre que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à l'intelligence des musulmans. On ne les laisse pas. Effectivement, un des aînés rappelait, et tout le monde l'a dit ici, tout le monde en est conscient, que les consulats jouent aussi un rôle de déstabilisation. Comment dire, dans leur bonne intention, une fois de plus, ils ont le sentiment que c'est de cette façon qu'ils peuvent le mieux accompagner les populations issues de leur pays. Mais en fait, ils ne font que leur tirer une balle dans le pied. Et donc, vous avez d'un côté un État qui ne respecte pas son rôle de gendarme, qui gère, qui permet un libre jeu de l'organisation des cultes, et vous avez des consulats qui continuent à exploiter, à utiliser leurs ressortissants, alors que les gens sont des Français, bon sang. Et ça ne gêne personne. Je discutais tout à l'heure avec une participante de façon vraiment très intéressante sur le financement du culte musulman et ces questions de fonds qui viendraient de l'étranger. J'ai témoigné de mon expérience personnelle. La mosquée de Pessac, nous l'avons achetée en 2014. Nous venons de réaliser l'extension en 2017. On l'a achetée intégralement, et je le répète une troisième fois, intégralement avec les fonds
avec
des fidèles.
Les fonds de fidèles.
Et les fonds qui ne sont pas venus des fidèles de Pessac, nous avons été les chercher, comme je disais à cette chère dame, à Paris, à Strasbourg, à Toulouse,
en France.
Et comme ces autres mosquées viennent à Bordeaux récolter, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Donc on ne s'offusque pas de savoir que l'Algérie, le Maroc ou la Turquie financent des mosquées satellites. Mais chaque fois, on nous ajoute le chiffon rouge du financement des lieux de culte qui viendraient de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Alors qu'on sait bien que l'Arabie Saoudite et particulièrement le Qatar achètent plus d'hôtels, plus de. De projets économiques qui servent les intérêts de la France que les mosquées. Voilà. Donc je pense qu'il faut véritablement qu'on cadre, constitue des causes pour pouvoir, je me dis, c'est comme, je termine avec ça, si on veut véritablement régler le problème, je prends toujours cette image, je me dis, c'est quand un patient est malade, quand il va chez le médecin, il y a un diagnostic.
Et donc il faut poser le diagnostic. Alors je vais utiliser cette phrase si vous voulez bien pour passer la parole à Monsieur Abdoulaye Habib. Et j'ai pas oublié que j'ai pas beaucoup donné la parole à Madame Thior. Simplement, il va devoir partir plus tôt. Du coup, je voudrais vous entendre. Est-ce que vous partagez le même diagnostic sur le déficit de la représentation des musulmans africains d'une part, sur d'une manière est-ce que la consultation devrait d'abord venir de la base et pas venir de l'État. Et voilà, c'est surtout sur ces deux questions-là que j'aimerais avoir votre avis.
Merci. Déficit dans quelle structure ? C'est ça la belle question.
Mais aussi la question de est-ce qu'il est souhaitable que finalement... Vous le disiez tout à l'heure que la question de la représentation ne vous intéresse pas, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Est-ce qu'il est même souhaitable qu'il y ait une représentation, alors des musulmans en général, et en particulier des musulmans africains ? Peut-être qu'au niveau local, ça fonctionne très bien comme ça, en fait.
C'est pour cela que je reprenais la question.
Oui, bien sûr, pardon, je précisais simplement.
Quand il s'agit d'organisation interne des musulmans eux-mêmes, le problème de la représentativité ne se pose pas. Parce que les communautés, entre elles, s'organisent. Il y a les Marocains qui créent leurs mosquées, les Algériens, les Comoriens, les Sénégalais, et ainsi de suite. Ça se fait comme ça. Mais quand on parle effectivement d'organisation nationale, d'organisation pilotée par les pouvoirs publics, là, la notion de représentativité est intéressante. Elle est même indispensable. Parce que à l'intérieur de ces structures vont évoluer des concepts, vont évoluer des pensées, vont évoluer des modèles d'organisation. Et si la communauté subsaharienne n'est pas inclue, ne prend pas part, donc il va falloir, dans ce cas-là, dégager des modèles qui ne vont pas lui correspondre. D'où la question, effectivement, de cette nécessité, quand on parle du CFCM, de la nécessité, effectivement, d'une représentativité visible, importante aussi, de la communauté subsaharienne. Je vais arriver à un cas pratique bien précis. En 2002, lorsque nous avons eu le deuxième mandat du CFCM, des SRCM, parce qu'il y a un premier mandat qui était un mandat expérimental, avant qu'on en arrive effectivement à l'élection des représentants du culte au sein des conseils, soit national, soit régional. À Marseille, où effectivement j'assurais la présidence de la FAYACA région PACA, nous nous sommes retrouvés, nous, la communauté africaine et comorienne, posés, confrontés à cette problématique de notre représentativité. Nous n'avons pas d'espace de culte suffisant. Il y a une petite mosquée de la rue Guichard pour les Comoriens. Il y avait une petite salle pour les mourides à Marseille. Il y avait également quelques petites salles dans ce qu'on appelle la région, dans la banlieue nord de Marseille, qui appartenait également aux Comoriens. Mais quand vous additionnez effectivement ces espaces, ça ne représente pas grand-chose. Donc vous ne pouvez pas être représenté. Nous étions obligés dans ce cas-là, lorsque nous avons mis en place la FAYACA, effectivement dans cet objectif de participer effectivement à l'organisation du Conseil Général du culte musulman, nous étions obligés de nous associer à la liste de la Grande Mosquée de Paris pour pouvoir figurer dans leur liste en position d'éligibilité. Si bien que moi qui fus secrétaire général adjoint du CRCM, je le fus parce que la Grande Mosquée de Paris a accepté de m'inscrire en troisième position dans sa liste. Du coup, ils ont eu trois candidats et j'ai pu entrer dans le bureau. Et c'est comme ça que ça a pu se faire. Et mes amis de la FAYACA au niveau de la région PACA ont dû tout simplement nous accompagner. Moi, quand je suis amené à partir de Marseille, puisque je devais peut-être parler de cela, j'ai été résident à Marseille pendant 4 ans et demi qui m'ont permis de prendre part effectivement à toutes ces activités, de participer effectivement à la création de la FAYACA et également à la conclusion de contrat avec la mairie qui nous a cédé un espace pour créer la mosquée Bilal. Mais après, je suis parti puisque je suis ce que les Comoriens d'ici appellent Comoco. Je suis Comoro-Comorien, je ne suis pas Franco-Comorien comme la plupart de ceux qui sont ici, ni même Franco-Sénégalais comme la plupart qui sont ici. Donc, à mon départ, mes amis sénégalais ont repris le flambeau, tant pour continuer à être représentés dans le cadre du CRCM, que pour continuer à gérer effectivement ce nouvel espace de culte que nous avons pu créer. Donc, cette notion de représentativité, elle est, tant qu'on parle effectivement d'organisation nationale, d'organisation qui a des relations avec le pouvoir public, la représentativité est indispensable. Il faut que nous puissions être là, apporter notre sensibilité. Quand on parle de l'islam de France, ça sera l'islam pratiqué en France avec toutes les sensibilités des communautés musulmanes de toute origine qui sont, quitte à créer dans ce cas-là une sorte de summum et de dégager une orientation commune. Mais l'orientation commune viendra effectivement de la contribution de toute communauté composant effectivement les musulmans de France.
Alors vous vouliez faire une petite intervention, c'est ce que vous me disiez.
Oui, et, s'il vous plaît, mon intervention a été biaisée par ma réaction aux plaintes de la séance précédente. C'est-à-dire, lorsque j'entends les jeunes se plaindre de ce qu'ils ont subi de la part de deux ou trois personnes, j'ai tenu à dire à ces jeunes ne passez pas la violence. Nous sommes dans un état de droit. Si vous êtes discriminé, s'il y a un problème de racisme, c'est la loi, c'est d'ordre public. Portez plainte comme je l'avais fait moi-même. Par contre, loin de là, j'ai vécu avec les Arabes. Je suis sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur les réseaux sociaux, les Africains m'attaquent. Disent de moi que je protège les Arabes. Donc, ceci pour vous dire que le problème de représentativité au CFCM ou en France, absolument pas. Ce n'est pas dû au racisme. C'est dû au dévoiement des statuts qu'on a fait. Mais il y a un cas précis que nous sommes en train de régler. Même dans le cadre des mètres carrés, nous, on est beaux joueurs. Lorsque nous avons compris qu'eux, ils sont allés prendre des baraquements pour avoir des délégués, qu'est-ce que nous avons fait, nous aussi? Tiens, vous avez changé la règle du jeu que j'ai fait voter moi-même. D'accord, on va respecter cette même règle du jeu. On va jouer. Qu'est-ce que nous avons fait? Cheikh Moussa Touré, la Fayaka, a payé le voyage à Mayotte d'une délégation de 3 personnes, moi-même et Boana. Et on a fait venir le grand Kadi et le président des associations musulmanes de Mayotte. On l'a fait venir, on a payé leur hôtel 2 fois aller-retour. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé avec Boana, avec la lettre de Mayotte, pour demander que Mayotte soit inscrit au CFCM. Puisque c'est question de mètres carrés, rien que Mayotte, nous devenons la première fédération de toute la France. Vous savez ce qu'ils ont fait? Je laisse Boana conclure. On est allé voir Dalil Boubacar. On est allé au ministère. On a tout déposé. Lorsque la délégation de Mayotte est rentrée, ils se sont entendus entre eux. Ils disent non, Mayotte ne rentrera pas. On a dit pourquoi l'île de la Réunion va rentrer et pourquoi Mayotte ne rentre pas? Vous savez quelle est leur réponse? La Fayaka deviendra la première fédération de France. Parce que rien qu'à Mayotte, vous avez autant de mètres carrés que toute la France, la grande mosquée de Paris réunie. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas question de racisme. Je ne serai pas là. Je ne serai pas. Si vous allez sur les réseaux sociaux, je vous le dis, j'ai écrit des livres dans lesquels j'ai défendu même l'arabe. Je disais même ce que les gens ne veulent pas entendre. Maintenant, il y a quelque chose qui se trame. Vous allez l'entendre demain, puisque c'est sorti à l'UNESCO la semaine dernière. Ils veulent que les Arabes rendent compte de la traite négrière. Je suis l'un des avocats de cela. Ce que je suis en train de vous dire, et là, c'est, on parle maintenant de vous. J'avais dit avant-hier. La Fayaka ouvre ses portes à sa jeunesse, non pas pour faire de jacquerie, non pas pour faire la révolution, ce que moi j'ai dit, si vous continuez comme ça, je dis aux membres de CFCM, si vous continuez comme ça, nous on est sages, entre guillemets, mais avec notre jeunesse, ils vont casser la baraque, parce que vous avez changé la règle du jeu, on s'est adapté à la règle que vous avez choisie, et maintenant vous rechangez. Qu'est-ce qui justifie que Mayotte ne soit pas membre du CFCM? Vous pouvez répondre à cela? Et c'est pourquoi, moi, avant-hier, indirectement, j'ai mis le ministère de l'Intérieur devant sa responsabilité. Prochainement, comme vient de le dire Abdou Wahab, le ministre peut recevoir qui il veut. C'est son droit. Mais par contre, que le ministre reçoive une délégation du CFCM qui va parler de notre affaire, l'affaire de mes enfants, les musulmans noirs, pour parler franc, et que la Fayaka ni l'île de la Réunion ne soient pas dans cette délégation, c'est le ministère qui porte la responsabilité, qui cautionne l'innommable. Excusez-moi.
Il n'y a donc que certaines fédérations qui ont été du coup présentes à la discussion, c'est ça que vous dites, et pas la Fayaka.
Pas la Fayaka, bon, pour être honnête, hein, pourquoi le ministère jusqu'à présent a accepté cela? C'est parce que, suivez bien, ce n'est pas question de racisme, c'est question de manipulation. Il y a un monsieur à qui il faut rendre vraiment hommage. Il s'appelle Mohamed Moussaoui. Il a été président du CFCM. Il a volontairement écourté son mandat pour faire une réforme. Il a écouté son mandat. Et quelle a été cette réforme à laquelle nous, on a participé à tout. On était là, on était en train de faire la réunion. Il y a un qui a appelé Lei de son côté. Vous savez ce qu'il lui dit? Le débauchage, on a vécu ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ils vont voir un noir, ils vont dire, toi, ne va pas avec la Fayaka, ils veulent débaucher Lei. Lei leur a répondu, mais il y a, tout le monde n'est pas Lei. Ils ont réussi à débaucher. Si bien qu'ils ont fait la nouvelle structure, ce qu'on appelle présidence tournante.
Oui, il y a trois présidents du coup qui s'alternent.
Donc, ce qui fait que pour le ministère nous a expliqué, mais j'ai dit ça ne marchera plus. Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est fondé, en quelque sorte. Ils disent, pour aller rencontrer le ministre, le président, les vice-présidents, eh bien, puisque le président, c'est un Turc, les vice-présidents, c'est un Marocain, un Algérien, il n'y a plus de place. Il y a deux Algériens, deux Marocains, un Turc, même pour aller rencontrer le pape. Nous, on a dit avant-hier, pas plus qu'avant-hier, hein, ce que je vous dis là, vous êtes témoins. Nous, on a dit au ministre, au ministère, ça suffit. Vous assumez votre responsabilité. Si vous n'êtes pas capable de recevoir, d'entendre ce que la communauté noire, on vit notre islam très, très ouvert, mais ce n'est pas recevoir le ministre ou ne pas recevoir le ministre. C'est parce qu'il se décide là-bas, comme l'a dit Abdelwahab, quelque chose qui ne nous convienne pas. Et surtout, que le ministre n'entende pas notre doléance. Quelle est notre doléance concrètement? Qui a fait ravage à la Fayaka? Vous ne savez pas ce que nous, on a vécu à la Fayaka pendant 6 ans. Il y a des membres de Fayaka qui viennent voir Hajj Moussa Touré presque en pleurs. On me dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a les jeunes adolescents de 11 ans, 12 ans qui reviennent d'une conférence dans laquelle on leur dit le roi, le soufisme, c'est le bid'a, ce n'est pas bon. Et surtout, ce qui fait ravage chez nous, c'est qu'elles disent à leur mère, tu n'es pas bonne musulmane, pourquoi on voit ton épaule, pourquoi tu ne te couvres pas? Et les parents sont paniqués. Nous, on a géré ça pendant des années en interne.
Mais principale doléance, c'est quoi, concrètement?
Nous, notre principale doléance, que le ministre n'entend pas, puisque la délégation qui va le rencontrer, ils sont monologues. Notre doléance est d'une simplicité et limpide. C'est le Coran, c'est l'islam. Nous nous basons sur l'islam. Nous, on a dit, ça se saurait. L'islam n'est pas né en 1960. Se couvrir la tête, c'est une obligation islamique, mais ça se saurait, le monde entier le porterait.
Donc la doléance, précisément, parce qu'il va falloir que j'ouvre à la salle.
Bon, c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, maintenant, la balade dans votre corps. La Hajj Moussa Touré depuis 1962.
Alors, il va falloir faire ça en une phrase parce que je vais devoir rouvrir à la salle. Bon, vous disiez, d'accord. Il y a une principale doléance. Est-ce que vous l'avez en tête ou pas? Vous l'avez pas la doléance?
Non, il y a 1000 doléances. C'est que le ministre n'a jamais rencontré.
Il veut que le ministre
voilà, vous voulez être écouté. Bon, mais on ne sait pas.
Non,
exactement
et
quoi,
ceci pour vous dire, je répète, hein, pour que vous le gardiez, la question au niveau du CFCM n'est pas basée sur le racisme. Pas
oui,
du
d'accord.
Tout.
On a bien compris.
Pas du tout.
Okay,
hein,
super.
Vous plaît.
Alors on va prendre des questions et j'espère qu'on entendra aussi du coup la question du déficit de représentation dont vous parliez tout à l'heure des jeunes et de la représentation aussi des femmes. Si vous avez des questions qui sont très
la dame n'avait pas.
Bah non, rien du tout. J'ai juste envie de poser la question. Mais qu'est-ce que je fais ici? Non, mais j'ai pas de souci par rapport à cette question de représentativité dans les organisations. Enfin, on a vu le niveau du débat. Que déjà c'était une question de relations publiques avec des personnes âgées, il y avait surtout avec des hommes. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est qu'il y a une absence des femmes et des jeunes dans ces organisations.
Absolument.
J'ai comme l'impression qu'on n'est pas...
Il y a combien de femmes à la Fayaka?
Il y a toujours de femmes, il y a plein de femmes.
Il y a combien de femmes? Combien? Concrètement, au bureau, au conseil d'administration, à l'assemblée?
Je vous réponds. Là où il y a un homme, il y a une femme. à la Fayaka.
Dans les membres, là, si on regarde les statuts dans votre conseil d'administration, il y a un homme pour une femme.
Il n'y a pas de.
Il n'y a pas de conseil d'administration.
Non, il n'y a pas. Il n'y a pas à spécifier dans des statuts, il y a un homme et une femme.
Mais si, c'est important. Les instances de décision, c'est important.
Dans les statuts, en tout cas, dans les statuts. Et nous, quand.
D'accord.
Donc, de là, durant tout le discours qu'ils ont tous tenu, c'était.
Oui, c'est ça.
C'était la.
Il dit que c'est un débat finalement, c'est la Fayaka, c'est ce qu'il a fait.
Ah oui, clairement. Et donc, c'est normal que je ne me sente pas concernée. Donc, du point de vue de mon âge, de mon expérience, et surtout que j'ai comme l'impression que c'est un sort qui est impénétrable. Moi, je me rappelle que j'ai essayé, enfin, on a créé une association avec une amie, qui est une baquée, enfin, avec tout ce qu'on sait, avec l'influence de la famille, justement, pour avoir une certaine emprise sur le collectif des Mourides en France, qui reste impénétrable. Je le répète. Mon amie qui a vécu à Marseille et qui fait une partie de sa thèse aux États-Unis, qui a vu les différences entre les mosquées, les instances de décision des deux musulmans, alors qu'en France, ça reste un cercle vraiment impénétrable avec les politiques publiques où ce sont les vieux, je suis désolée, qui se parlent entre eux, qui décident, qui font ce qu'ils veulent, qui réagissent selon l'appartenance ethnique, selon l'origine, selon le pays, tout ça. Donc ça fait que les jeunes et les femmes ne sont pas impliqués. C'est pas qu'on se sente pas concerné, mais on n'est pas impliqué du tout. Alors tout à l'heure, vous disiez qu'on devrait être fier de vivre en France parce que la France est le seul pays.
Un état de droit.
Est le seul pays qui a accepté de faire face à la traite négrière. Et ça m'a choqué. En tout cas, personnellement, je ne trouve pas que ce soit une chance de vivre en France. Surtout, je ne sais pas, nous subissons toujours le racisme en tant que femme, en tant que musulmane, depuis le collège. Nous avons beaucoup de discrimination. Et encore dans un pays de droit, alors que l'homme en tant qu'individu, l'homme en tant qu'homme blanc et tout ça, qui fait qu'il est encore supérieur en termes de classe sociale, je ne vois pas la chance de vivre en France, même si il a accepté de regarder la traite négrière. Voilà. Vous-même, vous l'avez dit en termes de politique publique. Non, mais c'était plutôt vous. Donc, il y a un moment où je me suis dit, mais est-ce que c'est ma place, cette table? Il y a toutes les questions qui m'ont interpellée, la question de la représentativité des jeunes. Il n'y en a pas du tout. Des femmes, encore, non plus. Surtout avec le collectif des Mourides qui reste un cercle vraiment très traditionnel où c'est une, donc c'est super compliqué.
S'il vous plaît, juste, si vous permettez, avant de passer à la salle, je rebondis juste très rapidement parce que le monsieur a exprimé ce que je disais tout bas, c'est-à-dire que le débat est en train de virer sur une réflexion sur la Fayaka et ses tentatives de structuration. Moi, pour moi, malgré toute la bonne volonté de nos aînés pour expliquer cette situation, c'est surtout, ils font malheureusement, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, la démonstration que ça ne marche pas. Et c'est-à-dire cette organisation, cette structuration de l'islam de France par cette méthode-là, de cooptation des fédérations ou de représentation par les fédérations, justement, ils viennent de nous faire la démonstration que ça ne marche pas.
Mais qu'il ne faut pas d'instance nationale de représentation ou spécifiquement, vous parlez du cas de la Fayaka?
Non, le cas de la Fayaka illustre le cas du CFCM. Moi, je ne voulais pas m'exprimer là-dessus, mais étant donné que la Fayaka, justement, tire tous ses malheurs de sa marginalisation dans le CFCM, permet de montrer encore mieux que ce CFCM tel qu'il a été monté est un pur échec. Quand la plateforme des musulmans a fait sa consultation auprès des musulmans, à la question est-ce que ces institutions vous représentent, mais on a frôlé les 90%, quoi.
De non, bien sûr,
c'est évident. De non, que le CFCM ne représente pas justement les musulmans. Donc je pense que peut-être qu'avec le débat avec la salle, on va pouvoir revenir sur ça, de réfléchir fondamentalement sur qu'est-ce qui fait que, parce que c'est ça le thème du sujet du colloque, hein, les musulmans subsahariens et comoriens en France. Mm-hmm. Voilà, donc d'essayer avec les questions du public de revenir sur cette réflexion sur qu'est-ce qui fait que nous sommes si sous-représentés et qu'est-ce qui fait que, malgré que nous sommes dans un état de droit, là je suis à 100% d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des discriminations, mais nous sommes bel et bien dans un état de droit, qu'est-ce qui fait que, malgré ces conditions, on n'y arrive pas.
Voilà. Alors, vous faites une parfaite transition.
J'aimerais bien rajouter un mot.
Oui, je vous en prie, parce que vous n'avez pas beaucoup parlé.
Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, au niveau de la représentativité officielle, c'est-à-dire, c'est vrai, nous sommes dans un pays démocratique, un pays de droit, mais je trouve que l'attitude des autorités françaises par rapport aux musulmans, on infantilise les musulmans. C'est comme si les musulmans ne sont pas assez mûrs pour s'organiser, pour choisir leurs représentants. Donc, qui fait que toutes les démarches qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'échec total. Puisque quand vous demandez aux majorités de musulmans, 95% de musulmans, ils vont dire que ceux qui sont au sein des CFM ne les représentent pas. Donc, laissons aux musulmans s'organiser d'élire leurs représentants.
Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, puis ensuite on passe à la salle, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais revenir sur nos difficultés internes, comme notre frère nigérien l'a souligné tout à l'heure. Et c'est vrai que la FAYAKA n'a pas l'unanimité. D'ailleurs, aucune fédération, même l'État, même le pouvoir public, le président Macron n'a pas l'unanimité.
Donc vous n'avez pas le monopole de la représentation.
Donc la FAYAKA ne peut pas faire l'unanimité. Père Sok Sola, c'est un ministre de l'Intérieur, nous l'a dit à l'UNESCO, ne cherchez pas l'unanimité puisque l'unanimité n'existait pas.
D'accord. Ok. Donc
la FAYAKA, certes, ne pas regrouper toutes les associations et tous les musulmans ressortissants subsahariens, comoriens et antillais, mais quand même, la FAYAKA a ratissé le plus largement possible et obtenu une large adhésion.
Donc combien d'adhérents vous disiez tout à l'heure?
Pour participer aux dernières élections, j'étais chargé de piloter la liste de la FAYAKA. J'ai visité plus de 300 foyers dans la région parisienne. Si l'on est presque la plupart des régions de France pour essayer d'obtenir des adhésions, des lieux de culte ou des associations, des lieux de culte dans les garages, dans les foyers ou dans les pavillons.
D'accord, ok.
Et nous avons l'idée, comme des lions au niveau du CFSM, pour obtenir l'acceptation de l'inscription des lieux de culte de foyers. Parce que
d'accord,
vous voyez le nombre de foyers. Donc,
et vous les avez obtenus? Les foyers font partie des mètres carrés?
Non, malheureusement, les 300 foyers visités, il y a 9 qui sont donnés leur accord, plus nos 5 mosquées dans la région parisienne.
D'accord.
Et la réticence de notre frère, malheureusement, qui rejette la représentativité de CFSM et la FAYAKA montre que les difficultés sont énormes. Parce que quand même, le CFSM, malgré ce qu'on dise, a réussi à obtenir l'adhésion de 1800 mosquées
aux élections.
Aux dernières élections. Et sur les 2700 mosquées. Donc dire que 90% des musulmans ne se retrouvent pas représenté par le CFSM, je pense que c'est une contre-vérité. Parce que quand on parle du culte,
qu'ils veulent changer.
Ouais, quand on parle du culte, on se termine. Quand on parle du culte, on parle des liens de culte.
On parle. Alors, je suis désolé de vous interrompre.
Quand on parle du culte, on parle des liens de culte. Parce que tous les chrétiens ne vont pas à l'église. Tous les musulmans ne vont pas à la mosquée.
Dans les mosquées.
Tous ceux qui disent musulmans ne vont pas à la mosquée.
D'accord.
Ou bien ne se sentent pas représentés par la mosquée.
Okay,
mais quand on parle du culte musulman, on parle de mosquée.
D'accord.
Et 1800 mosquées sur 2300, 2400
okay.
sont membres du CFSM.
Alors, je propose
donc
le
CFSM
merci
représente
beaucoup.
D'une façon vraiment démocratique et légitime. Le culte musulman.
D'accord.
On parle du culte.
Alors, je vous propose de commencer par les applaudir. Merci beaucoup pour les intervenants et l'intervenant. Et on va ouvrir aux questions, donc n'hésitez pas à revenir du coup sur les différents thèmes et problématiques qui ont été.